Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel avanzado. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Elija la mejor opción. A, B o C. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas.
Mon époque, ma radio.
Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous donc?
Un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Thibaut de Saint-Maurice, donc pour le moment philo du matin, avec Thibaut, une question étonnante donc que tu te poses. Est-ce qu'on peut vivre sans produire de déchets?
Oui, alors je veux bien que dès le matin comme ça, effectivement, la question puisse paraître un peu étrange, mais c'est justement parce que c'est un peu étrange que ça fait du bien de se la poser. Mm-hmm. Alors bon, tu disais que j'étais écologiste, oui, pas particulièrement, enfin un petit peu comme tout le monde. J'évite de jeter mes papiers par terre, et puis je trie mes poubelles, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il y en a, hein, comme par exemple la famille Johnson, qui vit en Californie et qui ont décidé d'adopter un style de vie un peu particulier. C'est le principe du zéro déchet, le zero waste lifestyle.
I'm Bea Johnson, I'm 36 and I strive to live a zero waste lifestyle. Zero waste means reduce first, reuse second and recycle last.
Voilà, alors son petit accent, c'est parce qu'en fait, Bea Johnson, elle est française.
Oui, ça s'entend un petit peu.
Voilà. Et donc, elle nous dit que vivre sans déchets, ça veut donc dire réduire sa consommation, réutiliser ou faire durer ce qu'on utilise et recycler. Et puis, ça implique aussi de beaucoup faire de choses soi-même. Bea Johnson, par exemple, elle fait ses shampoings, ses produits ménagers ou ses yaourts.
Un bel effort, hein, et c'est une initiative qui n'est pas isolée.
Eh ben non, parce qu'en fait, le zéro déchet, c'est une certaine manière d'être minimaliste. Alors, le minimalisme, c'est quoi? C'est un mouvement assez récent, qui date de 2005-2006, hein, et qui a pas mal explosé avec la crise économique et les interrogations écologiques du moment. Alors le principe est assez simple, il s'agit de supprimer tout le superflu de nos vies et de vivre en se contentant du strict nécessaire. Mais en même temps, c'est pas non plus un mouvement complètement radical et qui consiste à refuser en bloc toute consommation. C'est pas les nouveaux bergers du Larzac. Les minimalistes, ils ont des ordinateurs, des smartphones, hein.
Ouf.
Voilà, simplement, c'est un style de vie qui implique de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin. Par exemple, l'idée, c'est pas de supprimer donc totalement une télé, mais c'est peut-être pas non plus utile d'en avoir une dans toutes les pièces. Et puis quand on en achète une, autant acheter du haut de gamme ou en tout cas un modèle qui dure, hein, pour ne pas avoir à le renouveler rapidement. Et c'est pareil pour les fringues et les meubles et tout le reste de la maison.
En fait, c'est une autre manière de consommer responsable.
Oui, c'est ça. On peut aussi mettre les mots dans l'autre sens. C'est redevenir responsable de sa consommation. Alors le mouvement est assez récent, mais les racines, elles sont plutôt anciennes et elles sont philosophiques. Hein. On les retrouve chez le philosophe de l'Antiquité, Épicure, hein, par exemple. Alors Épicure, hein, contrairement à ce qu'on pense quand on utilise l'expression épicurien, Épicure ne fait pas la promotion de la jouissance et de l'excès de plaisir. Non, le conseil d'Épicure pour une vie heureuse, au contraire, ça consiste à faire le tri. Alors pas entre ses déchets, mais entre ses désirs, hein, entre ceux qui sont naturels, comme se nourrir, avoir des amis, se divertir, et les désirs qui sont, eux, artificiels et vides de sens, comme être célèbre, riche et puissant. Et pour être heureux, bah, il faut bien sûr satisfaire tous nos désirs naturels, parce que sinon l'insatisfaction serait trop pénible, mais il faut aussi se libérer de tous les désirs artificiels, parce que ces désirs, ils sont en fait contradictoires, hein, on peut pas les satisfaire durablement, et donc ils génèrent une profonde frustration.
Oui, donc en fait, au lieu de trier ses déchets, maintenant ce qu'il faudrait, c'est trier ses désirs.
Oui, ça pourrait être un peu la devise du minimalisme, hein. Mais au-delà de ce simple enjeu écologique, il y a aussi un enjeu éthique, hein, moral. Le minimalisme, c'est pas seulement une certaine manière de consommer, c'est aussi une certaine manière de reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie, en tentant de maîtriser donc ses désirs. Et exemple, les minimalistes sont contre le crédit, hein, parce que le crédit, c'est la dépendance et c'est la preuve qu'on n'a pas su maîtriser ses désirs. C'est une sorte de sobriété heureuse, hein, ou de frugalité épanouie. C'est la promesse selon laquelle « less is more », réduire pour s'enrichir. Et c'est finalement peut-être pas si absurde, hein, de penser à ça avant de se lancer dans le grand marathon des courses de Noël.
Ouais, m'en parle pas, rien qu'à l'idée de me retrouver dans la cohue, j'en suis malade. Je vais faire du cadeau minimaliste, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est voilà. Un très bon argument.
Merci beaucoup, Thibaut.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Mon époque, ma radio.
Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous donc?
Un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Thibaut de Saint-Maurice, donc pour le moment philo du matin, avec Thibaut, une question étonnante donc que tu te poses. Est-ce qu'on peut vivre sans produire de déchets?
Oui, alors je veux bien que dès le matin comme ça, effectivement, la question puisse paraître un peu étrange, mais c'est justement parce que c'est un peu étrange que ça fait du bien de se la poser. Alors bon, tu disais que j'étais écologiste, oui, pas particulièrement, enfin un petit peu comme tout le monde, bah j'évite de jeter mes papiers par terre et puis je trie mes poubelles, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il y en a, hein, comme par exemple la famille Johnson qui vit en Californie et qui ont décidé d'adopter un style de vie un peu particulier, c'est le principe du zéro déchet, le zero waste lifestyle.
I'm Bea Johnson, I'm 36 and I strive to live a zero waste lifestyle. Zero waste means reduce first, reuse second and recycle last.
Voilà, alors son petit accent, c'est parce qu'en fait, Bea Johnson, elle est française.
Oui, ça s'entend un petit peu.
Voilà. Et donc, elle nous dit que vivre sans déchets, ça veut donc dire réduire sa consommation, réutiliser ou faire durer ce qu'on utilise et recycler. Et puis, ça implique aussi de beaucoup faire de choses soi-même. Bea Johnson, par exemple, elle fait ses shampoings, ses produits ménagers ou ses yaourts.
Un bel effort, hein. Et c'est une initiative qui est pas isolée.
Eh ben non, parce qu'en fait, le zéro déchet, c'est une certaine manière d'être minimaliste. Alors, le minimalisme, c'est quoi? Ben, c'est un mouvement assez récent, qui date de 2005-2006, hein, et qui a pas mal explosé avec la crise économique et les interrogations écologiques du moment. Alors le principe est assez simple, il s'agit de supprimer tout le superflu de nos vies et de vivre en se contentant du strict nécessaire. Mais en même temps, c'est pas non plus un mouvement complètement radical et qui consiste à refuser en bloc toute consommation. C'est pas les nouveaux bergers du Larzac. Les minimalistes, ils ont des ordinateurs, des smartphones. Hein.
Ouf.
Voilà, simplement, c'est un style de vie qui implique de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin. Par exemple, l'idée, c'est pas de supprimer donc totalement une télé, mais c'est peut-être pas non plus utile d'en avoir une dans toutes les pièces. Et puis, quand on en achète une, autant acheter du haut de gamme, ou en tout cas un modèle qui dure, hein, pour ne pas avoir à le renouveler rapidement. Et c'est pareil pour les fringues et les meubles et tout le reste de la maison.
En fait, c'est une autre manière de consommer responsable.
Oui, c'est ça. On peut aussi mettre les mots dans l'autre sens. C'est redevenir responsable de sa consommation. Alors le mouvement est assez récent, mais les racines, elles sont plutôt anciennes et elles sont philosophiques. On les retrouve chez le philosophe de l'Antiquité, Épicure, hein, par exemple. Alors Épicure, hein, contrairement à ce qu'on pense quand on utilise l'expression épicurien, Épicure ne fait pas la promotion de la jouissance et de l'excès de plaisir. Non, le conseil d'Épicure pour une vie heureuse, au contraire, ça consiste à faire le tri. Alors pas entre ses déchets, mais entre ses désirs, hein, entre ceux qui sont naturels, comme se nourrir, avoir des amis, se divertir, et les désirs qui sont, eux, artificiels et vides de sens, comme être célèbre, riche et puissant. Et pour être heureux, bah, il faut bien sûr satisfaire tous nos désirs naturels, parce que sinon l'insatisfaction serait trop pénible, mais il faut aussi se libérer de tous les désirs artificiels, parce que ces désirs, ils sont en fait contradictoires, hein, on peut pas les satisfaire durablement, et donc ils génèrent une profonde frustration.
Oui, donc en fait, au lieu de trier ses déchets, maintenant ce qu'il faudrait, c'est trier ses désirs.
Oui, et ça pourrait être un peu la devise du minimalisme, hein. Mais au-delà de ce simple enjeu écologique, il y a aussi un enjeu éthique, hein, moral. Le minimalisme, c'est pas seulement une certaine manière de consommer, c'est aussi une certaine manière de reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie, en tentant de maîtriser donc ses désirs. Et exemple, les minimalistes sont contre le crédit, hein, parce que le crédit, c'est la dépendance et c'est la preuve qu'on n'a pas su maîtriser ses désirs. C'est une sorte de sobriété heureuse, hein, ou de frugalité épanouie. C'est la promesse selon laquelle « less is more », réduire pour s'enrichir. Et c'est finalement peut-être pas si absurde, hein, de penser à ça avant de se lancer dans le grand marathon des courses de Noël.
Ouais, m'en parle pas, rien qu'à l'idée de me retrouver dans la cohue, j'en suis malade. Je vais faire du cadeau minimaliste, en fait.
Voilà, c'est hein, ça, c'est voilà. Un très bon argument.
Merci beaucoup, Thibaut.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Mon époque, ma radio.
Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous donc?
Un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Thibaut de Saint-Maurice, donc pour le moment philo du matin, avec Thibaut, une question étonnante donc que tu te poses. Est-ce qu'on peut vivre sans produire de déchets?
Oui, alors je veux bien que dès le matin comme ça, effectivement, la question puisse paraître un peu étrange, mais c'est justement parce que c'est un peu étrange que ça fait du bien de se la poser. Alors bon, tu disais que j'étais écologiste, oui, pas particulièrement, enfin un petit peu comme tout le monde, bah j'évite de jeter mes papiers par terre et puis je trie mes poubelles, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il y en a, hein, comme par exemple la famille Johnson qui vit en Californie et qui ont décidé d'adopter un style de vie un peu particulier, c'est le principe du zéro déchet, le zero waste lifestyle.
I'm Bea Johnson, I'm 36 and I strive to live a zero waste lifestyle. Zero waste means reduce first, reuse second and recycle last.
Voilà, alors son petit accent, c'est parce qu'en fait, Bea Johnson, elle est française.
Oui, ça s'entend un petit peu.
Voilà. Et donc, elle nous dit que vivre sans déchets, ça veut donc dire réduire sa consommation, réutiliser ou faire durer ce qu'on utilise et recycler. Et puis, ça implique aussi de beaucoup faire de choses soi-même. Bea Johnson, par exemple, elle fait ses shampoings, ses produits ménagers ou ses yaourts.
Un bel effort, hein. Et c'est une initiative qui n'est pas isolée.
Eh ben non, parce qu'en fait, le zéro déchet, c'est une certaine manière d'être minimaliste. Alors, le minimalisme, c'est quoi ? Ben, c'est un mouvement assez récent, qui date de 2005-2006, hein, et qui a pas mal explosé avec la crise économique et les interrogations écologiques du moment. Alors le principe est assez simple, il s'agit de supprimer tout le superflu de nos vies et de vivre en se contentant du strict nécessaire. Mais en même temps, c'est pas non plus un mouvement complètement radical et qui consiste à refuser en bloc toute consommation. C'est pas les nouveaux bergers du Larzac. Les minimalistes, ils ont des ordinateurs, des smartphones. Hein.
Ouf.
Voilà, simplement, c'est un style de vie qui implique de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin. Par exemple, l'idée, c'est pas de supprimer donc totalement une télé, mais c'est peut-être pas non plus utile d'en avoir une dans toutes les pièces. Et puis, quand on en achète une, autant acheter du haut de gamme, ou en tout cas un modèle qui dure, hein, pour ne pas avoir à le renouveler rapidement. Et c'est pareil pour les fringues et les meubles et tout le reste de la maison.
En fait, c'est une autre manière de consommer responsable.
Oui, c'est ça, on peut aussi mettre les mots dans l'autre sens, c'est redevenir responsable de sa consommation. Alors le mouvement est assez récent, mais les racines, elles, sont plutôt anciennes et elles sont philosophiques. Hein. On les retrouve chez le philosophe de l'Antiquité, Épicure, hein, par exemple. Alors Épicure, hein, contrairement à ce qu'on pense quand on utilise l'expression épicurien, Épicure ne fait pas la promotion de la jouissance et de l'excès de plaisir. Non, le conseil d'Épicure pour une vie heureuse, au contraire, ça consiste à faire le tri. Alors pas entre ses déchets, mais entre ses désirs, hein, entre ceux qui sont naturels, comme se nourrir, avoir des amis, se divertir, et les désirs qui sont, eux, artificiels et vides de sens, comme être célèbre, riche et puissant. Et pour être heureux, bah, il faut bien sûr satisfaire tous nos désirs naturels, parce que sinon l'insatisfaction serait trop pénible, mais il faut aussi se libérer de tous les désirs artificiels, parce que ces désirs, ils sont en fait contradictoires, hein, on peut pas les satisfaire durablement, et donc ils génèrent une profonde frustration.
Oui, donc en fait, au lieu de trier ses déchets, maintenant ce qu'il faudrait, c'est trier ses désirs.
Oui, et ça pourrait être un peu la devise du minimalisme, hein. Mais au-delà de ce simple enjeu écologique, il y a aussi un enjeu éthique, hein, moral. Le minimalisme, c'est pas seulement une certaine manière de consommer, c'est aussi une certaine manière de reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie, en tentant de maîtriser donc ses désirs. Et exemple, les minimalistes sont contre le crédit, hein, parce que le crédit, c'est la dépendance et c'est la preuve qu'on n'a pas su maîtriser ses désirs. C'est une sorte de sobriété heureuse, hein, ou de frugalité épanouie. C'est la promesse selon laquelle « less is more », réduire pour s'enrichir. Et c'est finalement peut-être pas si absurde, hein, de penser à ça avant de se lancer dans le grand marathon des courses de Noël.
Ouais, m'en parle pas, mais rien qu'à l'idée de me retrouver dans la cohue, j'en suis malade. Je vais faire du cadeau minimaliste, en fait.
Voilà, c'est hein, ça, c'est voilà. Un très bon argument.
Merci beaucoup, Thibaut.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Marque las 10 respuestas correctas. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas.
Vous écoutez France Culture.
À 7h31, c'est l'heure du choix de la rédaction consacrée ce matin aux emplois d'avenir.
Réforme clivante de la campagne, elle entrera en vigueur demain. Les emplois d'avenir s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, qui résident dans des zones urbaines ou rurales sensibles marquées par le chômage. Les employeurs sont principalement des collectivités locales, des entreprises publiques ou des associations. L'association des départements de France a promis 7000 recrutements dès 2013. SNCF en a annoncé 500 en septembre. La Poste en prévoit 1000 sur 3 ans. Le Conseil général de la Drôme est l'un des premiers départements de France à recruter ces fameux emplois d'avenir. Reportage à Valence, signé Annabelle Grelier.
La Drôme, département de la région Rhône-Alpes le plus touché par le chômage des jeunes. Jusqu'à 27% d'entre eux ne trouvent pas d'emploi. Une recherche d'autant plus difficile pour ceux qui n'ont pas de formation. Samia a quitté l'école à 15 ans et depuis 10 ans, elle n'a jamais décollé du CDD de courte durée.
À part le McDo, il n'y a rien de... J'ai eu que des petits boulots en fait, j'ai pas eu de gros contrats. C'est dur parce que j'ai pas de formation, j'ai jamais été formée et tout, j'ai eu que des petits emplois. Et la plupart des restaurants, ils cherchent avec l'expérience au moins d'un an. J'ai des entretiens mais je suis jamais prise. Et ils me disent qu'ils me rappellent, ils me rappellent pas. Quand ils rappellent, c'est soit pour dire que le poste il a été pourvu, tout simplement, ou c'est rare qu'on me rappelle pour me dire comprenez-moi.
Pourtant, cette fois, ce sera le cas. Le conseil général de la Drôme a rappelé Samia pour lui proposer un emploi d'avenir dans la restauration collective dans un collège du département. Un emploi payé au SMIC. Un contrat gagnant-gagnant, explique le président du conseil général Didier Guillaume.
À ces jeunes, nous leur tendons la main. Nous leur offrons une chance de s'en sortir. Une chance de retrouver une autonomie personnelle. Peut-être de quitter papa-maman. Après l'emploi, elles auront peut-être un appartement. Une autonomie sociale. Et ça, c'est très important pour un jeune de 20 ans, 21 ans, d'acquérir son autonomie. Et ensuite, gagnant-gagnant, nous les prenons, nous les formons, à eux après de se prendre en main, nous les aiderons à trouver un emploi, ils resteront chez nous le temps qu'il faudra, mais l'objectif sera qu'ils en partent pour aller vers le privé, et le privé sera content de recruter des jeunes qui auront eu une formation et une expérience professionnelle.
Un contrat à long terme et une formation, c'est justement ce que cherche Morad. Sorti du lycée à 18 ans avec un BEP comptabilité en main, il n'a pas ménagé sa peine pour trouver un emploi, mais rien qui lui permette jusque-là de faire des projets.
C'est vrai que j'ai commencé par les petits boulots, les boulots d'intérim, l'usine, la manutention, parce qu'on n'était pas qualifié et qu'on n'avait pas de formation. Après voilà, je me suis marié, j'avais réussi à avoir un contrat que j'ai trouvé par rapport à la mairie, qui cherchait des agents de médiation au sein de la CTAV à Valence. Donc j'ai fait un an de médiateur à la CTAV. Mais voilà, ça restait quand même du CDD, peut-être sur du plus long terme, mais ça restait quand même quelque chose de... On pouvait pas se projeter aussi loin, plus loin qu'un an ou 6 mois, quoi. Je veux dire, ça restait vraiment quelque chose de précaire. Et je pense que les contrats d'avenir, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché. Et je pense que ça donne un nouvel élan, je pense, pour les jeunes. Je sais que moi, pendant 3 ans, je vais avoir un boulot. Et qu'à la fin, je vais avoir une formation et que je vais être qualifié et puis que je vais pas repartir à zéro, quoi.
Les 15 premiers emplois d'avenir viennent d'être signés au Conseil général de la Drôme qui compte en créer 150 en 3 ans, soit un budget de 600 000 euros. Ces jeunes ne joueront pas pour autant les bouches-trous, assure Claudie Mullier, directrice de l'insertion des jeunes au département.
Eh bien, ce n'est pas effectivement un emploi ni provisoire ni sous-occupé. Ce n'est pas non plus un stagiaire ou un contrat au rabais. On sent que vraiment on s'occupe de l'avenir du jeune. La différence, c'est que le paquet est mis sur la formation, c'est-à-dire que le jeune, il rentre, il a un tuteur qui va effectivement valider ses compétences, mais aussi il va l'aider à transposer tout ça en termes de compétences à compléter, en termes de formation à acquérir. Mais en tous les cas, les jeunes auront cette chance d'avoir 3 ans de contrat avec à la fois le salaire, la formation, c'est effectivement leur offrir l'expérience professionnelle qui leur manque sur leur CV.
L'État s'est donné l'objectif de créer 100 000 emplois d'avenir en France en 2013 pour atteindre 150 000 en 2014. Il prend en charge 75% du salaire et des charges sociales. Coût du dispositif, 2 milliards 300 millions d'euros.
Les emplois d'avenir, un dossier à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Vous écoutez France Culture.
À 7h31, c'est l'heure du choix de la rédaction, consacrée ce matin aux emplois d'avenir.
Réforme clivante de la campagne, elle entrera en vigueur demain. Les emplois d'avenir s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, qui résident dans des zones urbaines ou rurales sensibles, marquées par le chômage. Les employeurs sont principalement des collectivités locales, des entreprises publiques ou des associations. L'association des départements de France a promis 7000 recrutements dès 2013. SNCF en a annoncé 500 en septembre. La Poste en prévoit 1000 sur 3 ans. Le Conseil général de la Drôme est l'un des premiers départements de France à recruter ces fameux emplois d'avenir. Reportage à Valence, signé Annabelle Grelier.
La Drôme, département de la région Rhône-Alpes le plus touché par le chômage des jeunes. Jusqu'à 27% d'entre eux ne trouvent pas d'emploi. Une recherche d'autant plus difficile pour ceux qui n'ont pas de formation. Samia a quitté l'école à 15 ans et depuis 10 ans, elle n'a jamais décollé du CDD de courte durée.
À part le McDo, il n'y a rien de... J'ai eu que des petits boulots en fait, j'ai pas eu de gros contrats. C'est dur parce que j'ai pas de formation, j'ai jamais été formée et tout, j'ai eu que des petits emplois. Et la plupart des restaurants, ils cherchent avec l'expérience moins d'un an. J'ai des entretiens mais je suis jamais prise. Et ils me disent qu'ils me rappellent, et ils me rappellent pas. Quand ils rappellent, c'est soit pour dire que le poste il a été pourvu, tout simplement, ou c'est rare qu'on me rappelle pour me dire comprenez-moi.
Pourtant, cette fois, ce sera le cas. Le conseil général de la Drôme a rappelé Samia pour lui proposer un emploi d'avenir dans la restauration collective dans un collège du département. Un emploi payé au SMIC. Un contrat gagnant-gagnant, explique le président du conseil général Didier Guillaume.
À ces jeunes, nous leur offrons, nous leur tendons la main. Nous leur offrons une chance de s'en sortir. Une chance de retrouver une autonomie personnelle. Peut-être de quitter papa-maman. Après l'emploi, elles auront peut-être un appartement. Une autonomie sociale. Et ça, c'est très important pour un jeune de 20 ans, 21 ans, d'acquérir son autonomie. Et ensuite, gagnant-gagnant, nous les prenons, nous les formons, à eux après de se prendre en main, nous les aiderons à trouver un emploi, ils resteront chez nous le temps qu'il faudra, mais l'objectif sera qu'ils en partent pour aller vers le privé, et le privé sera content de recruter des jeunes qui auront eu une formation et une expérience professionnelle.
Un contrat à long terme et une formation, c'est justement ce que cherche Morad. Sorti du lycée à 18 ans avec un BEP comptabilité en main, il n'a pas ménagé sa peine pour trouver un emploi, mais rien qui lui permette jusque-là de faire des projets.
C'est vrai que j'ai commencé par les petits boulots, les boulots d'intérim, l'usine, la manutention, parce qu'on n'était pas qualifiés et qu'on n'avait pas de formation. Après voilà, je me suis marié, j'avais réussi à avoir un contrat que j'ai trouvé par rapport à la mairie, qui cherchait des agents de médiation au sein de la CTAV à Valence. Donc j'ai fait un an de médiateur à la CTAV. Mais voilà, ça restait quand même du CDD, peut-être sur du plus long terme, mais ça restait quand même quelque chose de... On pouvait pas se projeter aussi loin, plus loin qu'un an ou 6 mois, quoi. Je veux dire, ça restait vraiment quelque chose de précaire. Et je pense que les contrats d'avenir, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché. Et je pense que ça donne un nouvel élan, je pense, pour les jeunes. Je sais que moi, pendant 3 ans, je vais avoir un boulot. Et qu'à la fin, je vais avoir une formation et que je vais être qualifié et puis que je vais pas repartir à zéro, quoi.
Les 15 premiers emplois d'avenir viennent d'être signés au Conseil général de la Drôme qui compte en créer 150 en 3 ans, soit un budget de 600 000 euros. Ces jeunes ne joueront pas pour autant les bouches-trous, assure Claudie Mullier, directrice de l'insertion des jeunes au département.
Et bien, ce n'est pas effectivement un emploi ni provisoire ni sous-occupé. Ce n'est pas non plus un stagiaire ou un contrat au rabais sans que vraiment on s'occupe de l'avenir du jeune. La différence, c'est que le paquet est mis sur la formation, c'est-à-dire que le jeune, il rentre, il a un tuteur qui va effectivement valider ses compétences, mais aussi il va l'aider à transposer tout ça en termes de compétences à compléter, en termes de formation à acquérir. Mais en tous les cas, les jeunes auront cette chance d'avoir 3 ans de contrat avec à la fois le salaire, la formation. C'est effectivement leur offrir l'expérience professionnelle qui leur manque sur leur CV.
L'État s'est donné l'objectif de créer 100 000 emplois d'avenir en France en 2013 pour atteindre 150 000 en 2014. Il prend en charge 75% du salaire et des charges sociales. Coût du dispositif, 2 milliards 300 millions d'euros.
Les emplois d'avenir, un dossier à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.
Vous écoutez France Culture.
À 7h31, c'est l'heure du choix de la rédaction consacrée ce matin aux emplois d'avenir.
Réforme clivante de la campagne, elle entrera en vigueur demain. Les emplois d'avenir s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, qui résident dans des zones urbaines ou rurales sensibles marquées par le chômage. Les employeurs sont principalement des collectivités locales, des entreprises publiques ou des associations. L'association des départements de France a promis 7000 recrutements dès 2013. SNCF en a annoncé 500 en septembre. La Poste en prévoit 1000 sur 3 ans. Le Conseil général de la Drôme est l'un des premiers départements de France à recruter ces fameux emplois d'avenir. Reportage à Valence, signé Annabelle Grelier.
La Drôme, département de la région Rhône-Alpes le plus touché par le chômage des jeunes. Jusqu'à 27% d'entre eux ne trouvent pas d'emploi. Une recherche d'autant plus difficile pour ceux qui n'ont pas de formation. Samia a quitté l'école à 15 ans et depuis 10 ans, elle n'a jamais décollé du CDD de courte durée.
À part le McDo, il n'y a rien de... J'ai eu que des petits boulots en fait, j'ai pas eu de gros contrats. C'est dur parce que j'ai pas de formation, j'ai jamais été formée et tout, j'ai eu que des petits emplois. Et la plupart des restaurants, ils cherchent avec l'expérience moins d'un an. J'ai des entretiens mais je suis jamais prise. Et ils me disent qu'ils me rappellent, ils me rappellent pas. Quand ils rappellent, c'est soit pour dire que le poste il a été pourvu, tout simplement, ou c'est rare qu'on me rappelle pour me dire comprenez-moi.
Pourtant, cette fois, ce sera le cas. Le conseil général de la Drôme a rappelé Samia pour lui proposer un emploi d'avenir dans la restauration collective dans un collège du département. Un emploi payé au SMIC. Un contrat gagnant-gagnant, explique le président du conseil général Didier Guillaume.
À ces jeunes, nous leur offrons, nous leur tendons la main. Nous leur offrons une chance de s'en sortir. Une chance de retrouver une autonomie personnelle. Peut-être de quitter papa-maman. Après l'emploi, elles auront peut-être un appartement. Une autonomie sociale. Et ça, c'est très important pour un jeune de 20 ans, 21 ans, d'acquérir son autonomie. Et ensuite, gagnant-gagnant, nous les prenons, nous les formons, à eux après de se prendre en main, nous les aiderons à trouver un emploi, ils resteront chez nous le temps qu'il faudra, mais l'objectif sera qu'ils en partent pour aller vers le privé, et le privé sera content de recruter des jeunes qui auront eu une formation et une expérience professionnelle.
Un contrat à long terme et une formation, c'est justement ce que cherche Morad. Sorti du lycée à 18 ans avec un BEP comptabilité en main, il n'a pas ménagé sa peine pour trouver un emploi, mais rien qui lui permette jusque-là de faire des projets.
C'est vrai que j'ai commencé par les petits boulots, les boulots d'intérim, l'usine, la manutention, parce qu'on n'était pas qualifié et qu'on n'avait pas de formation. Après voilà, je me suis marié, j'avais réussi à avoir un contrat que j'ai trouvé par rapport à la mairie, qui cherchait des agents de médiation au sein de la CTAV à Valence. Donc j'ai fait un an de médiateur à la CTAV. Mais voilà, ça restait quand même du CDD, peut-être sur du plus long terme, mais ça restait quand même quelque chose de... On pouvait pas se projeter aussi loin, plus loin qu'un an ou 6 mois, quoi. Je veux dire, ça restait vraiment quelque chose de précaire. Et je pense que les contrats d'avenir, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché. Et je pense que ça donne un nouvel élan, je pense, pour les jeunes. Je sais que moi, pendant 3 ans, je vais avoir un boulot. Et qu'à la fin, je vais avoir une formation et que je vais être qualifié et puis que je vais pas repartir à zéro, quoi.
Les 15 premiers emplois d'avenir viennent d'être signés au Conseil général de la Drôme qui compte en créer 150 en 3 ans, soit un budget de 600 000 euros. Ces jeunes ne joueront pas pour autant les bouches-trous, assure Claudie Mullier, directrice de l'insertion des jeunes au département.
Eh bien, ce n'est pas effectivement un emploi ni provisoire ni sous-occupé. Ce n'est pas non plus un stagiaire ou un contrat au rabais. On sent que vraiment on s'occupe de l'avenir du jeune. La différence, c'est que le paquet est mis sur la formation, c'est-à-dire que le jeune, il rentre, il a un tuteur qui va effectivement valider ses compétences, mais aussi il va l'aider à transposer tout ça en termes de compétences à compléter, en termes de formation à acquérir. Mais en tous les cas, les jeunes auront cette chance d'avoir 3 ans de contrat avec à la fois le salaire, la formation, c'est effectivement leur offrir l'expérience professionnelle qui leur manque sur leur CV.
L'État s'est donné l'objectif de créer 100 000 emplois d'avenir en France en 2013 pour atteindre 150 000 en 2014. Il prend en charge 75% du salaire et des charges sociales. Coût du dispositif, 2 milliards 300 millions d'euros.
Les emplois d'avenir, un dossier à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.
Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 2.